Et salut à tous, salut à toute la communauté. Ici Peanuts dans cette vidéo de rentrée. C'est la première que je recorde dans mon nouvel appartement. Et c'est un honneur du coup de recevoir Jérôme Launay ou Wattels. Salut à toi Jérôme.
Salut Simon, salut tout le monde.
Alors, aujourd'hui on va faire une interview un petit peu particulière. Je vois que tu es ébloui par le soleil de Manchester.
Ah ouais, c'est terrible, hein. J'imagine même pas quel temps il doit faire chez toi s'il fait soleil là ici. Bon.
Ouais, il fait effectivement très beau à Nice. Bon, je vais te présenter rapidement et tu rajouteras tout ce que tu veux rajouter évidemment par la suite. Mais on se connaît depuis 10 ans, je pense. On s'est rencontrés sur les tables à l'époque où je grindais en NL200. Ou peut-être qu'on s'est rencontrés sur une NL100, je pense. Bon,
Ah,
peu
moi j'étais
importe.
NL100 à l'époque.
Ouais, on s'est rencontrés sur une NL100 au tout début. Et. Mais du coup, on a pris contact, je crois, suite à des petits trash talk dans le chat, il me
Oui,
semble.
j'étais un peu jeune et bête, hein. Soyons honnêtes, et donc du coup je me prenais la tête facilement, et bah du coup ça nous a permis de faire connaissance quand même.
Exactement. Exactement. Et c'était les tout débuts de Kill Tilt, et je me rappelle que tu me trollais quand je te disais qu'on pouvait être joueur pro de poker, que tu découvres un petit peu le tracker, la stratégie et tout. Et c'était intéressant parce que tu faisais partie de ces joueurs qui étaient ni récréatifs, ni règles forcément, dans le sens où tu avais un style de jeu super atypique et tout. Mais tu étais déjà gagnant à l'époque, je pense.
J'étais gagnant, mais j'avais aucune idée de combien en termes de win rate, etc. J'étais légèrement gagnant, mais enfin voilà, j'étais pas bon, quoi. Juste le niveau était très faible.
Ouais, il y a 10 ans, c'est
Mais
vrai.
je faisais n'importe quoi, on peut le dire quand même, hein. Moi, juste ma. Je savais même pas que la pédagogie existait au poker. Je regardais juste des high stakes poker à l'époque, donc je pensais que c'était comme ça qu'il fallait jouer. Donc bon, ça explique un peu mes stats à l'époque, hein, tu vois. Donc voilà. Et donc c'était n'importe quoi, je foldais jamais aux 3 bêtes,
Ouais, ça c'est vrai.
je sais pas si t'as en tête mes stats, mais je devais jouer
T'étais
42, 28.
42, ouais, c'est exactement ça. 42, 28, 42, 25, et fold tout 3 bêtes, 25% ou 30%, je crois. Tu payais tout, même hors de position, les as
Voilà.
de suite et tout. Mais.
Je mettais dans un spot nul, après post-flop, je bricolais, on va dire, quoi, mais
C'était la
bon.
belle époque où on pouvait vaguement être gagnant, en tout cas.
À l'époque où même Simon était gagnant, vous voyez, hein.
Exactement, à l'époque où même moi, je gagnais encore le temps, je me fais déjà trash en début de vidéo, il va falloir que je réaffirme mon autorité.
À l'époque où
Mais.
Simon était professionnel de poker.
Exactement. Mais plus sérieusement, passer les petits trolls, il y a quand même un truc qui est assez étonnant dans ton parcours, c'est que, bon bah on peut le dire cash d'entrée, donc ça fait 10 ans que tu grindes. Combien de temps ça fait que tu grindes professionnellement? 6 ans?
Bah, je dirais
8?
depuis que je fais que ça, donc c'est joué en 2012, j'ai eu mon diplôme kiné joué en
8 ans.
2012. À partir de ce moment-là, bah, j'étais plus étudiant, je suis censé devenir kiné, et j'ai pas fait kiné, et donc, du coup j'ai fait que du poker, donc je considère jouer en 2012, tu vois.
Ok, donc c'est ça, 8 ans. Tu vois, je disais 6-8 ans, putain, ça nous
Oui.
rajeunit pas. Ouais, non, mais 8 ans, c'est vrai que ça me fait bizarre, mais effectivement, c'est ça. Et bon, donc ce qui est assez impressionnant dans ton parcours, c'est que tu as toujours eu une approche, comment dire, un peu à contre-courant de tout ce que, on va dire, la bien-pensance du poker dans le milieu professionnel disait tout le temps. À savoir, par exemple, tu n'as jamais utilisé de HUD, donc le HUD, ce qui permet d'afficher les statistiques des joueurs au-dessus des tables. Tu multitablais beaucoup dès le début sur un laptop, enfin un PC portable sans souris. Tu jouais au pavé numérique, enfin, c'est assez
Pendant très
infâme.
longtemps, même j'ai commencé la souris qu'en 2016, je crois, ou 2017.
J'ai commencé la souris qu'en 2016, très belle citation. C'était vraiment choquant. Moi, je me rappelle, tu étais venu chez moi à Nice, on s'était vu avec un autre très bon joueur de poker en cash game, et tu jouais à l'arrache, je sais pas, sur ton PC portable sur les genoux en NL400 sur 8 tables, et ça te posait pas de
Sais plus,
problème.
on rentrait d'un resto avant 23 h,
Ouais,
je suis
c'est
là,
ça.
vas-y, tuk-tuk-tuk.
Ouais, moi, j'ai jamais pu faire ça, et bon, surtout, tu as eu des résultats assez exceptionnels, on peut le dire, et ça, c'est l'occasion aussi de dire, il y a beaucoup de gens qui disent que le poker a évolué, on peut plus gagner, que voilà, c'est vraiment fini, donc toi, tu es un joueur de cash game, principalement. On pourrait penser que tu devrais te reconvertir en MTT Live, vu tes excellents résultats à Dublin notamment, on y reviendra, mais ouais, c'est assez rigolo parce que, donc, t'as un peu cassé des mythes, donc notamment sur le fait qu'on pouvait pas jouer sans HUD, et toi tu t'en sortais très bien comme ça. Et surtout en termes de win rate, t'as très rapidement eu des win rates, je pense assez rapidement, je crois que t'as fait 8 BB 100, big blind toutes les 100 mains, ce qui est un très très bon win rate. Et aujourd'hui en NL100, NL200, tu vas être entre 10 et 12, je crois. Mais je vais mettre tes graphes dès le début de vidéo, afficher sur ton écran en même temps si tu les vois pas, vu que j'ai pas le partage d'écran. Donc vous voyez à l'écran ici là le graphe de Jérôme, donc je crois que tu m'as envoyé 700, ouais, il y a 766
Ouais,
412 mains exactement.
En gros, je fais 500 000 mains par an et bon, j'ai la mauvaise habitude d'éclater un PC tous les 18 mois, donc bon, j'ai à peu près ça, quoi.
Ouais, donc le tilt n'est pas parfaitement résolu. Tu n'as
Non,
pas
non, mais
kill
ça n'a
le
rien à voir avec
tilt
le poker,
encore.
c'est juste que je surutilise tellement le PC qui... Et moi, c'est un laptop, c'est pas une unité centrale, quoi, donc à un moment donné, il craque, quoi, tu vois. Et...
D'accord, c'est pas parce que tu tapes du poing dessus, quoi.
Non, 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 je suis pas du genre à ajouter le PC parce qu'il y a une mauvaise river ou...
Ok. Donc là, on voit que sur 766 000 mains, tu as un résultat net, toutes limites confondues, de bon, globalement 180 000 euros, avec un win rate ajusté en moyenne à 12,5 BB100, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Et là, il y a tes résultats par limite. Donc tu joues très principalement de la NL100 à la NL200. On voit que ton volume est ici 360 000 mains en NL100, 305 000 mains en NL200. Il y a quand même un peu plus de 50 000 mains en NL400 et quelques shots aux limites supérieures, un tout petit peu de 1K et NL600. Donc évidemment des résultats vraiment vraiment sick, à savoir que en général on considère évidemment qu'à partir de ouais à partir de la NL100 on considère que 4-5 BB100 c'est déjà tout à fait correct. Et non bon alors tu tires la tronche parce qu'effectivement c'est des winrates qui sont pas safe dans le sens où il y aura beaucoup de variance, mais c'est quand même battre la limite. Et donc toi t'as rapidement fait plus. Et après ce long monologue, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton approche du poker, de comment tu bosses ta technique et de ce qui explique selon toi tes résultats en fait. Je sais que enfin nous on se connaît très bien donc en off tu m'en parles tout le temps, mais comment t'approches ça quoi?
J'aime pas le terme travail du jeu, je sais bien que les gens disent ça, mais moi, vu que c'est ma passion, j'aime pas dire le travail, tu vois. Si ça se trouve, je travaille le jeu dès que je passe une main avec un pote, dès que je parle poker, est-ce que c'est ça le travail du jeu? Dans ce cas-là, je travaille le jeu, c'est inquantifiable, tu vois. Je pense poker assez souvent dans la journée. Est-ce que dès que j'envoie une main, est-ce que dès que je regarde un Twitch, est-ce que dès que je revois une vidéo, est-ce que dès que je joue, est-ce que c'est du travail du jeu? Moi, je pense que oui, parce que je prends énormément de notes in-game. Je pense que c'est le plus important et peut-être un peu sous-évalué d'ailleurs, ça, parce qu'on est dans une époque de solver, machin, etc. Et puis personne parle de prise de notes, par exemple, je trouve. Donc voilà, le travail du jeu, bah je sais pas, ce serait beaucoup trop arrogant de dire que je travaille pas le jeu et que j'ai ces résultats-là. Forcément, je travaille le jeu, mais je saurais pas dire comment. Si ça se trouve, c'est peut-être naturel. Je me rends pas compte que je travaille le jeu dès que je parle poker avec un pote, dès que je partage une HH. Voilà. Bon, après, quand même, une fois par semaine, je review avec un pote un reg de nos limites pendant 3-4 heures et on le passe au crib, au scrib.
Au crible.
Donc, voilà.
Non mais c'est pas rien, donc voilà déjà un truc significatif, passer 3-4 heures par semaine à prendre un joueur que tu croises régulièrement à ta limite et à l'analyser de A à Z pour trouver ses plus gros leaks et l'exploiter, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde va faire quoi.
Et en plus, ça permet souvent d'échanger avec le pote en question. Bah, il s'appelle Yamib, dédicace à Yamib, qui on reparle un petit peu des tendances du field, est-ce que ça évolue, tu vois, parce qu'on joue les mêmes trucs et enfin, on dévie vite, tu vois, on review le reg d'un premier point de vue, puis après on parle un petit peu des tendances, comment est-ce qu'il y en a qui. Est-ce que le jeu évolue, quoi? Est-ce que ça colle plus? Est-ce que ça bluffe plus? Est-ce que voilà, est-ce que ça 3-bet plus? Est-ce que ça check raise plus et tout? Bon, globalement, tout le monde a à peu près les mêmes leaks dans les règles qu'on review, quoi. Ça colle beaucoup trop, ça raise pas, c'est enfin bon, plein de trucs, hein, mais.
Ok. Mais donc du coup, toi, ça permet de rebondir sur ça. Je sais que ça te tilte pas mal quand on parle trop de GTO. Même quand on n'en parle pas trop, j'ai l'impression que le mot GTO te tilte un peu presque. Bon, depuis, l'eau a coulé sous les ponts, mais tu as été un des premiers à dire que c'était un peu overrated, en tout cas sur le field français, aux limites jusqu'en NL200. Et qu'il me semble, tu me corrigeras si je me trompe, que tu es quand même une approche vraiment plus exploitante et que tu préfères taper sur les leaks des êtres humains que tu as en face de toi, les joueurs de poker, plutôt que de dire ah bah non, je vais équilibrer mon range pour finalement coller à une théorie d'une vidéo américaine qui finalement ne paye pas dans le winrate. Est-ce que tu peux parler de ça un peu?
Oui, bon, alors après, précision quand même que je suis un grinder que de NL100 en NL200. J'imagine qu'en 400, 600, bon, les gens vont rigoler s'ils vont me dire oh lol, il crache sur les GTO alors qu'il joue que ces
Mais tu
limites-là, tu vois.
crashes, mais tu connais ce que c'est et
Voilà.
tout aussi, bien sûr.
Mais voilà, c'est toujours bien de savoir ce qu'il faut faire en règle générale, mais seulement c'est tellement dur pour un être humain d'appliquer, d'essayer de jouer comme un solver, parce qu'on va forcément dévier nous-mêmes, parce qu'on se dit ah, mais non, mais là contre ce vilain, faut mieux faire ci et ça. Et du coup, ça donne un espèce de flou. Faut que pas que je sois vulgaire, ça donne un espèce de brouhaha où tout le monde alterne solver, exploit et tout, tout le monde fait n'importe quoi, j'ai l'impression. Enfin, moi je trouve que le niveau est faible, hein, dernièrement je trouve que le niveau était plus fort il y a 2-3 ans, parce que à cause de ça, et parce que je pense qu'il est très mal utilisé par beaucoup de gens, et moi-même j'ai peur de mal utiliser, que ça me dévie trop sur mon jeu. C'est comme avec le HUD, j'avais grind une semaine dans ma vie, et je me rendais compte que je regardais les stats, et j'arrêtais de réfléchir au range, j'arrêtais de réfléchir à la dynamique, à l'historique, à plein de trucs, à comment je joue vilain et tout, parce qu'il y a des joueurs. Ils ont les mêmes stats, mais ils n'ont pas les mêmes ranges, tu vois ce que je veux dire.
Bah
Et
oui, bien sûr.
c'est improbable. Tu vois, par exemple, moi je vais donner un petit indice, tu vois, j'ai 10% de 3 bêtes, mais je 3 bête bien plus souvent les fiches que les règles, c'est la base du poker, jouer un max de coups contre les fiches, donc tu les 3 bêtes beaucoup, tu les iso beaucoup et tout, mais ça peut level un règle dès que je 3 bête, dire, oh, il a 10%, comme d'hab, il a rien, l'honnête, et voilà, et il se passe parfois des choses bizarres.
Bah dans ces choses bizarres, c'est quoi par exemple? Justement des choses qui, des grosses, selon toi, des grosses erreurs techniques que les joueurs devraient plus faire et qui font.
Parfois il y a des règles qui me 4 bet call as dame ou 9-9, c'est complètement hallucinant, ça reste rare le 5 bet light all in au poker. Enfin, je veux dire, what did you expect quoi? Il espère que je vais shove as valet 8-8, enfin, je sais pas, je comprends pas, tu vois. Donc ouais, mais j'imagine que c'est sous prétexte de tel stat, 2-3 bets, etc. Enfin voilà. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien faire des longues sessions. Bon, je pars un peu dans tous les sens, hein,
Non, non,
parce
mais
que
c'est le but de l'interview.
dans les longues sessions, c'est marrant. Enfin. Comment dire, chacun a ses qualités et ses défauts en tant qu'être humain, évidemment. Et moi, et du coup, faut essayer de jouer sur ses qualités au maximum. Connais-toi toi-même, c'est un truc de philosophe, ou je sais pas.
C'était
Enfin,
écrit sur le temple de Delphes, effectivement, à
ah, voilà.
Athènes,
Tu
en
vois, comme quoi j'ai
philosophie.
des trucs sans. Bon, bref.
un étudiant studieux.
Du coup, moi, je considère que mes qualités, c'est de pouvoir jouer beaucoup de tables longtemps et maintenir un bon
C'est
endgame.
vrai.
Alors après, c'est pas le endgame de l'année, évidemment. Bon, même si sur les limites que je pense que t'as pas, quoi. Et du coup, il y a des règles, je pense, qui sont moins capables de faire ça. Il y a des règles qui sont beaucoup plus forts que moi techniquement. Ils préfèrent jouer 4 tables posées de NL600, par exemple. Et voilà. Et ça leur correspond mieux à leur grind à eux. Moi, c'est pas le cas. Je préfère jouer 10-12 tables en 100-200. Bon, j'essaie de me soigner un peu là. Ça fait quelques semaines, je joue plus du tout les 100. Les 100, pardon. Et donc, ça, c'est cool. Et bon, bref, je dévie. Et du coup, je vois au fur et à mesure l'évolution de certains règles dans la session quand ça se passe mal et tout. Bah, encore une fois, on parle d'une époque de solver et tout, mais le mental est toujours là. Il y a des règles encore qui craquent. Alors, ils craquent pas en mode ils font tapis sur 10 tables comme il y a 10 ans, certains règles pouvaient le faire. Mais ils craquent quand même, ça se voit. Ils fold de moins en moins en 3 bêtes hors de position. Ils collent trop. Ils se mettent à jouer un petit peu comme des fiches. Ah, alors, oui, moi j'utilise le mot fiche, Simon. Je suis désolé, je sais bien que c'est pas forcément politiquement correct,
Bah moi
quoi,
aussi je
mais.
le dis, non mais c'est on aura l'occasion de reparler de cet aspect-là politiquement
Et
correct,
donc,
t'inquiète.
je pars vraiment dans tous les sens, je suis désolé. Et donc, du coup, dans les longues sessions, quand même, tu vois qu'à la fin de la session, le règle il est plus du tout en ligne comme la première heure, tu vois. Si ça se
Longue
passe mal,
session, c'est ça peut aller jusqu'à combien de
au-delà
temps?
de 4 heures, j'irai au-delà de 4 heures sur une longue session. Je dois jouer 4 heures en moyenne par jour, moi. Et quand je dépasse 5-6 heures, ça veut pas forcément dire que ça va mal, ça veut juste dire que l'action, je culpabilise si j'arrête, quoi, tu vois. Bon, de temps en temps, ça veut dire que ça se passe mal et que tu essayes de rattraper, évidemment. Hein. On reste des êtres humains, on déteste terminer downs comme ça, mais bon, ça arrive au poker, malheureusement. Mais du coup, ouais, moi j'aime bien jouer des longues sessions. L'aspect mental et l'aspect. Ouais, où les gens, je pense, utilisent très mal la GTO, ou du moins à mes limites, quoi. Ouais. Même jusqu'en 400, en réalité, je pense, c'est pareil, 400. Voilà, peut-être
Mais ouais.
601K. Bon, clairement, les mecs, c'est plus des robots, c'est tous des Nihilus Love et tout, j'en sais rien.
Mais non, mais t'as raison, mais c'est très intéressant ce que tu dis, et j'en parlais avec un des tout meilleurs joueurs français il n'y a pas longtemps, que je citerai pas parce que peu importe, chacun veut garder ses anecdotes parfois pour lui, mais il me racontait que justement le parcours d'un autre excellent joueur de tournoi français, qui parlait d'un spot donc sur un tournoi live, où là l'aspect humain et situationnel est encore plus important, enfin, est vraiment vraiment crucial dans l'analyse d'une décision. Et puis finalement, il racontait la HH qu'il avait perdu, puis il dit, mais bon, je m'en veux pas. Puis au solver, il a dit que dans ce spot, il faut bluffer un tiers du temps. Donc voilà, c'était mon tiers du temps de bluff. Et puis voilà, et il s'en est arrêté là dans l'analyse. Et l'autre joueur disait, mais enfin, c'est complètement aberrant. Là, c'est pas du tout une question de GTO. On est dans un spot particulier. Je crois que c'était à la bulle ou à l'approche d'une TF. Là, la GTO compte quasiment pas. T'as un être humain en face de toi qui te connaît, tu le connais. Il y a un historique entre vous. Enfin, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Alors, dans un tournoi live, c'est encore plus important, évidemment. Mais même dans le cash game, et t'as raison, moi, c'était un de mes gros leaks. C'est vrai que j'avais un peu, et le gros leak de plein de gens, on a trop le nez rivé sur les stats. Souvent, on se donne des bonnes raisons de faire nos plays. Pour pas trop se creuser les méninges, tout simplement, parce que comme tu dis, prendre plein de notes sur les joueurs, connaître leur profil, et du coup s'adapter vraiment à un joueur et un être humain et à ses tendances plutôt qu'à des chiffres, c'est quand même plus complexe. Et donc c'est vraiment intéressant cet aspect-là, et je sais que si j'en avais parlé sans montrer tes graphes et sans avoir aussi énormément de recul, puisque ça fait 8 ans que t'es pro et vraiment 4 ans que t'as des résultats à ses limites très très haut, je pense que les gens ne l'auraient pas cru, donc. Évidemment, je pense, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais que tu as une part de talent un peu inné, dans le sens où je trouve que tu tiltes très peu. C'est pas vraiment que tu tiltes peu, c'est que comme tu dis, tu maintiens ton A-game, Et t'arrives à quasiment jamais en dévier, en fait. Je sais que je t'ai vu faire des hero fold, même des joueurs qui jouent même en plus haute limite que toi, qui sont meilleurs, te disent non, mais là tu peux call et tu fais des hero fold, alors on peut pas savoir s'ils étaient bons.
Bah non,
Mais
c'est dommage, dans
voilà,
les folles, on sait jamais, hein.
exactement. Mais c'est sûr que c'est des situations où de toute façon il y a une EV très close et tu restes droit, tu restes dans ta ligne et les résultats sont là en termes de win rate. Bon, dites-moi si dans les commentaires YouTube, si vous arrivez à trouver un seul joueur en France qui sur au moins 300 000 mains a un meilleur win rate sur ses limites, NL100, NL100. Moi j'ai jamais vu et je pense que c'est dû à ces aspects-là qui sont que tu te focuses vraiment sur le joueur et que tu le crushes et donc tu mets un peu la GTO de côté et que tu vas vraiment réfléchir au HH et tu parles toujours d'un joueur. Tu connais très bien ton field et sous un pseudo, c'est vraiment de mettre un joueur. Et comment tu gères l'aspect justement quand tu as un nouveau joueur ou que le joueur change de pseudo comment tu joues contre un joueur dont tu sais qu'il est règle mais que tu n'as pas encore profilé? Est-ce que tu as vraiment une approche un peu bon, ben lui, tant que j'ai pas d'infos, je vais le jouer standard? Comment tu.
Je sais pas trop ce que ça veut dire jouer standard, mais où... non, au début justement, je pense qu'il faut faire connaissance, donc je suis très aggro et je colle peut-être un peu plus que je le ferais pour comprendre un petit peu
Pour
comment il
prendre des
joue.
infos.
Et au début, j'ai cette peut-être croyance, peut-être une fausse croyance, de dire quand il me connaît pas, il va pas penser que je vais bluff ce spot qui paraît SX, etc. Alors que d'autres joueurs, j'ai une sale image, je sais que je peux plus bluff ce spot de toute ma vie, tu vois. Donc bon, mais non, bah faut faire connaissance, faut tester. Alors ça coûte cher, hein. D'ailleurs, j'ai remarqué que souvent, je pense en début de session, je suis toujours down quasiment la première heure. Mais je pense c'est parce que je colle un peu plus la première heure, je bluffe un peu plus pour un petit peu comprendre, c'est même les fiches, tu vois, comprendre comment joue le fiche de la session et tout. Et une fois que le fiche, t'as quelque chose à contre le fiche, bah après c'est easy pour le reste de la session. Normalement, tu sais comment le jouer quasiment. Il y a beaucoup de règles, c'est un peu la même chose. Il y a des règles qui sont très très mood dépendants aussi. Donc bon. Enfin voilà, donc souvent la première heure je suis un peu down, je prends un petit peu des informations mais qui peuvent coûter cher sur le film, mais vu que je sais que je vais jouer 4-5 heures, c'est pas grave, en avant les éléphants, et puis on voit ce que ça donne.
En avant les éléphants, d'accord,
Ouais,
je
je cache pas
connaissais
que
pas celle-là, mais.
j'ai 2-3 trucs à placer là dans cette
D'accord,
vidéo.
il y a un petit side bet, il y a un petit side bet, pourquoi pas. Mais tiens, ça me fait penser à quelque chose. Tu parlais des joueurs qui étaient mood dépendants. Qu'est-ce que le poker, ça t'a appris sur la nature humaine? Je fais une petite question
Et je
sur
pense
comment sont les gens, quoi.
le poker, c'est vraiment une école de la vie. Moi, je pense que ça m'a fait évoluer en tant qu'être humain. Je pense que je suis beaucoup plus posé qu'il y a 10 ans. Bah, de toute façon, il y a 10 ans, tu voyais bien comment je te parlais et tout. Bon, bref. Et en fait, je suis en paix avec moi-même sur plein de sujets grâce au poker, notamment sur le fait de ne pas être résultat en titre dans la vie. J'ai l'impression que les gens hors poker sont résultat en titre H24, 6 jours sur 7
Ah,
jours
c'est un
sur 7.
biais cognitif, ouais.
Enfin, ouais. Et du coup, il y en a plein qui regardent avoir fait ça et tout. On parle d'un événement X ou lambda, j'en sais rien. T'arrives à l'aéroport, l'avion est annulé de 4-5 heures et tout. Tu dis, oui, mais enfin, tu vas pas arriver en retard parce que l'avion est arrivé en retard. Voilà, t'as 4-5 heures à glander dans l'aéroport, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus avec les informations que t'avais
Tu veux dire quelqu'un qui dira, oh, ben, j'aurais pas dû me presser, je le savais que j'aurais dû prendre mon temps, et, par
Oui,
exemple,
voilà,
quoi.
il whine sur la situation, alors que là, bon, bah, t'as 4-5 heures à tuer, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, bah, tu vas au bar avec Crazy Razor, tu bois des coups, t'attends que ça se passe, enfin voilà, ça va, et ça va, et t'as plein de situations dans la vie où c'est pareil, tu vois. Finalement, ça sert à quoi que je fasse des études de kiné et 2 ans de prépa, 3 ans d'école pour jamais exercer le métier? Parce qu'à l'époque, je pouvais pas deviner que j'allais être pro poker, et c'est beaucoup trop dangereux de me dire à 19 ans, je vais faire pro de poker, c'est irréel de penser comme ça. Et bon, d'ailleurs, bah, je pense que c'est un autre sujet, hein, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'irresponsabilité actuellement dans le poker, hein, mais bon, voilà, beaucoup de
Qu'est-ce
gens.
que
En fait,
tu veux dire par là, d'irresponsabilité?
je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer pro poker alors qu'ils ont 500 euros de roll, NL10, ou ils ont fait un wine time, ils gagnent la fièvre 3K, ils vont penser qu'ils vont être pro poker grâce à ça, j'en sais rien. Et moi, j'ai l'impression que la notion de pro poker, parmi tous mes potes, et peut-être même toi, ça t'a fait pareil. J'ai un doute sur ton parcours, mais je pense que c'est pareil, ça vient un petit peu naturellement, tu vois, tu joues beaucoup au poker, t'es passionné, et à force de jouer, tu commences à te dire, tiens, bon, je commence à peut-être gagner beaucoup plus que ce que mon métier me permettrait de faire. Mais tu fais pas all-in sur le poker, ça doit rester un plan B, t'as toute la vie pour réussir dans le poker, et si tu réussis pas, tant pis, c'est qu'un jeu, tu vois, enfin voilà. Mais faut pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec tous les raccourcis possibles avec notamment les entreprises de coaching, staking, etc. Tu peux griller plein d'étapes, te lancer dans le poker et être le salarié d'un mec toute ta vie. Voilà, j'arrête le bashing à ce niveau-là, Simon.
Non, non, mais c'est super intéressant et il n'y a pas de souci. Et j'ai pas forcément tout le temps la même opinion que toi et c'est à nuancer, c'est intéressant. Mais en gros, est-ce que ton
En fait, je pense que
sentiment, c'est que le poker tend la perche à des gens pour essayer d'avoir une technique facile et rapide de gagner de l'argent et d'être libre, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué et que les gens se jettent là-dedans sans trop réfléchir, quoi, en gros.
Bah, en fait, faut pas faire le poker si tu gagnes pas bien plus ta vie que le français random qui va bosser, qui gagne 2K par mois. Ou... Enfin, je sais pas la situation économique en France, peut-être c'est moins 1K et 3K,
Je
bon,
crois que le
bref.
salaire médian est à 2000 ou 2300, un truc comme
Oh,
ça.
j'étais pas très loin, c'est bien.
Il me semble, hein, il me semble que c'est ça.
Et moi, tu vois, j'ai hésité à passer pro poker, j'avais 10K de roll, 80K sur le compte bancaire. Et j'étais que en L100, tu vois, j'ai toujours pas shoot la L200, tu vois. C'était bon, je suis le plus gros nick du BRM de la
Voilà, j'allais
Terre
dire, toi,
d'une.
t'es quand même particulièrement conservateur. On n'est pas obligé de faire à ce point, mais effectivement, bah, de toute façon, on l'a dit dans plein de vidéos sur Kill Tilt, il me semble. Enfin, pas il me semble, c'est quand même moi qui les ai faites. Donc, c'est conseillé d'avoir au moins 2 ans de niveau de vie de côté. Donc, si on claque 2K par mois, allez, 50 000 euros de côté, enfin, 24 000 par an, 48 000 sur 2 ans, et au moins 10K de roll. Donc, c'est vraiment conseillé d'avoir ça. Mais comme si on lançait une entreprise, finalement. Sauf qu'au poker. Il y a beaucoup plus de variants, ça va être beaucoup plus difficile que la création d'entreprise, où en plus on peut avoir des aides et tout. Donc effectivement, et tu crois que c'est dû à quoi ça que... Est-ce que tu as l'impression que c'est pire qu'il y a 10 ans, ce truc
Ouais,
ou...
bah, y a 10 ans, des gens comme moi pensaient que c'était pas possible de vivre du poker. Donc bon.
Ouais, c'est vrai que
Et
ça a changé aussi.
là maintenant, de plus en plus, bah, avec les réseaux sociaux, bah, tous les sites de poker, etc., les gens commencent à dire, ah bah tiens, on peut vivre du poker. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça, tu vois. Il y a 10 ans, c'était un jeu, il y en a très très peu qui gagnent et basta. Mais on joue un peu pour arrondir les fins de mois, mais il n'y avait pas le rêve de vivre du poker comme il y a maintenant. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises qui vendent avec tel pack, etc. Devenez pro poker, etc. Voilà, je veux pas trop m'étendre là-dessus parce que on n'a pas envie de bâcher les plateformes de coaching, etc. Mais pour moi, c'est très dangereux et ça peut donner une solution de facilité pour beaucoup de gens. Et à court terme, on a l'impression de gagner du temps, mais en fait, c'est pas le cas parce que qu'est-ce qui va se passer le jour où tu t'es plus stacké? Tu vas toujours avoir dans le coin de ta tête. Si je me broque, c'est pas grave, je pourrais me faire stacker ailleurs. Et du coup, tu peux vivre comme ça toute ta vie. Et arriver à 50 ans, t'auras pas 5K de côté parce que tu te seras broke 300 fois dans ta vie et qu'à chaque fois tu te refais stacker, coacher, etc. Et pour moi, ça fait pas grandir en fait tout ça.
Qu'est-ce qui fait grandir pour toi?
Bah, ce qui fait grandir, c'est de. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît évident. Après, peut-être qu'il manque des cours de gestion financière ou quoi à l'école, tu vois, j'en sais rien. Mais moi, ça me paraît du bon sens, tu vois, de pas me lancer poker pro avec 5K de roll, 2K en banque. Enfin, voilà, ça me paraît évident. Le poker, c'est quelque chose d'incroyable. Tu sors de la société quand même. Donc, quand tu sors de la société, c'est un risque, c'est un gros risque. Donc, il faut que le risque en vaille la chandelle. Non, c'est beau ce que je dis. Et voilà, faut pas faire ça pour être smicard du poker. Du coup, va travailler normalement. Enfin, faut vraiment être sûr. Enfin, moi, quand je suis passé pro, enfin voilà, j'aurais déjà pu arrêter mes études de kiné en plein milieu. Je dis non, je vais au bout quand même. N'en sais rien, le poker, ça se trouve dans un an, t'es nul, tu pourras plus gagner, Jérôme. Enfin, faut être responsable. Aujourd'hui, j'ai l'impression que personne n'est responsable dans le poker aujourd'hui. Et tout le monde veut griller les étapes avec les trucs de coaching, stacking. Non, non, prends ton temps, tu montes les limites, tu fais tes études, t'as ton job, tu fais le poker 15-20 heures par semaine si tu peux. Si c'est moins, bah c'est moins, c'est pas grave. C'est-à-dire que ta vie est pleine, t'es heureux ailleurs, t'as pas le temps de faire du poker, c'est pas grave. Tu peux être heureux sans le poker, quoi. Enfin.
Mais est-ce que le poker envoie pas ce message-là? Et peut-être que moi-même j'en suis responsable à mes dépens, tu vois, mais de cette idée de ah ben tiens, ça va être un échappatoire à ma vie de merde, je vais en fait être libre, gagner 30 euros de l'heure, tous ces cons qui vont au boulot en se levant tôt, ils vont être bien jaloux de moi, je vais voyager, et que ça rend enfin un petit peu comme il y a dans la télé-réalité aussi, des gens qui disent ah, tiens, je vais être connu et riche rapidement, sans faire trop d'efforts. Les gens peuvent se dire ça avec le poker par mégarde, mais
Oui,
après, effectivement, la réalité peut
c'est.
être tout autre. Il y a aussi, excuse-moi de t'interrompre, des gens qui, parfois, ont un parcours qui marche bien, où ils se font stacker alors qu'ils ont que 5K de roll, mais c'est toujours 5K, ils ont que 6 mois d'expérience, mais c'est toujours 6 mois, et ça se passe bien. Mais effectivement, on va parler que de cela pour des raisons marketing évidentes, et on va pas parler de tous ceux qui ont eu le même parcours et qui ont lamentablement échoué, qui ont fait une dépression, qui se sont broke. Et c'est vrai que c'est très délicat parce que nous en off, toi, moi et tous les acteurs du poker qui connaissent bien ce milieu depuis longtemps, on le sait, on a plein de témoignages derrière de, enfin c'est un peu vrai quoi, de vie brisée en
Ah
fait.
oui.
Et après derrière, il faut en parler aussi, bah, sinon on a tous l'impression que comme tu dis, c'est pas grave, on se lance, on va devenir pro, puis si on devient pas pro, c'est pas grave, on se remet stack et tout. Non, c'est la vie est plus complexe, on joue avec des choses très difficiles. Et en plus, on est un peu seul aussi dans le milieu du poker par rapport à un entrepreneur qui va peut-être aller au bureau, être entouré de collègues. Bon, après, il y a des groupes de travail, il y a plein de choses très positives qui se montent. Mais je sais que toi, tu es un peu vénère contre
Mais
ça. Et je comprends ce que tu dis, même si C'est peut-être un peu trop extrême à mon sens, mais
Ben
je comprends ce que tu dis.
je suis extrême et c'est pas grave si je suis trop extrême, au moins ça va faire réfléchir peut-être un peu certaines personnes. Je veux dire, bon, ouais, il exagère un peu, mais peut-être il y a un fond de vérité, peut-être qu'il y en a qui vont dire ça, j'en sais rien. Mais moi, tu
Ok.
vois, je suis pas coach, j'ai pas de plateforme à vendre, j'ai rien à vendre. Donc je dis ce que je pense et ce que je pense être la vérité. Et aujourd'hui, personne ne dit réellement ce qu'il pense parce que tout le monde se vend, tout le monde vend son coaching, son site, machin, etc. Donc plus personne ne dit ce la vérité, mais disent ce que veulent entendre les gens, c'est possible d'y arriver, venez chez nous, blablabla et tout. Mais là, je suis peut-être en train de un peu trop bâcher.
Non, 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 je trouve que tu as totalement raison. Et moi, c'est grâce à des gens comme toi, d'ailleurs, que j'essaye constamment de m'autocritiquer et de, même si je dois sûrement pas assez le faire, puisque mon business, c'est d'aider les gens à progresser au poker, je donne peut-être, malgré moi, beaucoup trop d'espoir et une sensation de facilité, même si bah, dans des vidéos comme Vive du poker en ligne, elle s'appelle Un rêve à l'épreuve de la réalité, j'insiste bien. Peut-être que j'insiste pas assez et puis que moi, voilà, je l'ai dit une ou deux fois dans l'année. Après, j'y pense pas et qu'il y a plein de gens qui, à 18 ans, se disent, ah oh, bah tiens, surtout avec le Covid, tu vois, il y a plein de gens qui se sont créés des comptes, qui ont dit, ah oh, bah tiens, je vais bosser l'année, faire du poker. Donc bon, fermons la parenthèse. On y reviendra bientôt, mais je pense que c'était un truc super important. Donc
C'est vrai que
effectivement,
je fais pas une super pub du poker alors que c'est mon métier, c'est marrant.
ben, on n'est pas là pour faire de la pub du poker, quoi. On est là pour parler de la vérité. En même temps, ben, tes résultats parlent d'eux-mêmes. Donc justement, on va revenir un peu sur tes résultats, mais avant sur ton parcours. Donc petit flashback, on va faire un préquel Jérôme Launay, joueur pro, tu vois. Parle-nous un peu, ben, voilà, ton enfance, ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu aimais faire gamin déjà?
Jérôme Launay, né à Nantes en 19... Non, je rigole. Donc moi j'ai découvert le poker en 2007-2008, Patrick Bruel, Canal+, le gros cliché, hein, c'est
Ouais.
l'histoire que Chichi a dû entendre 100 fois à la CPR, tu vois. Avec Denis Balbir, Patrick Bruel, Canal+, le World Poker Tour, etc. Et tout de suite, c'était vachement à la mode le poker en 2008-2009. Dès que t'étais avec des potes, tu faisais une partie de poker, tout le monde avait sa mallette de jetons, etc. C'était vraiment top, etc. Tous les samedis soirs, je regardais Canal+, Patrick Bruel et tout. Je loupais même des matchs de foot pour regarder ça, c'est dire Simon.
Oula, ouais.
Et donc, et du coup, bah, il faisait sa petite pub pour Winamax, forcément, Patrick
Bien
Bruel.
sûr.
Donc, du coup, je clique Winamax, Google, machin, etc. Et je tombe sur des vidéos de Nicolas Lévy à l'époque.
Sitengo,
Je sais pas,
croque-monsieur.
voilà. Stengo, Croque-Monsieur et tout. Et vraiment, c'était les seules vidéos pédagogiques. Il n'y avait pas de vidéos de cash game encore à l'époque. Enfin, il y avait des vidéos de tournoi Sitengo et tout. Bon. Et donc, je vois les vidéos de Sitengo et tout. Je fais, oh, ça a pas l'air dur. Tu vois, je regarde le truc vraiment comme un fiche et tout. Et donc, du coup, je décide, allez, je déposite 500 $, ce qui est énorme
T'as
pour moi. Tu vois,
déposé
j'avais
500?
ouais,
Ah, je savais pas
500 $.
ça. Ou alors tu me l'as dit, mais je m'en rappelais plus. Ok.
J'avais que 1K1, 1K. Tu sais, à l'époque, j'avais 18-19 ans. J'étais tout juste majeur. J'avais 1K parce que l'échec des grand-mères cote à Noël depuis des années. Et puis voilà, quoi. Et je déposite 500, je fais des Sitengo 5 $ ou 10 $. Et à l'époque, c'était facile, quoi. Enfin, les Sitengo, tu folles pendant une demi-heure, tu fais ta pile pendant une demi-heure, voilà, et tu gagnes des sous. Mais déjà, à l'époque, j'aimais bien multitabler, tu vois. Je comprenais un petit peu. Enfin, j'avais vraiment regardé toutes les vidéos de Nicolas Lévy sur Winamax. Enfin, j'étais passionné du jeu, quoi. J'adorais ça. Et donc, mais bon, ça coïncidait aussi avec la fin de mon lycée. Je commence les études de prépa kiné, donc je peux pas grind tant que ça. Il fallait que je prépare mon concours pour intégrer l'école de kiné. Donc je fais 200 de Sitengo un ou deux jours par semaine. J'arrive à monter à 4 000 $. Alors à préciser que dès que je suis monté à 1K$ de roll, j'ai retiré 500. Comme ça, je
Pour être
disais, bon,
sûr de
maintenant je
pas
free roll.
perdre, ouais.
Voilà, comme ça je free roll. À l'époque, déjà, j'avais un petit peu peur, tu vois. Et donc, en 2 ans de prépa, donc la première année de prépa, je me craque, j'ai pas le concours. Deuxième année, je l'ai. Bon, je raconte ma vie, hein. Deuxième
Bah, c'est le
année.
but, c'est le moment où il commence à passer scolairement et tout. Je t'avais même parlé de ton enfance, t'en as pas parlé, sinon ça prendrait 4 heures, mais vas-y, dis-moi.
On s'en fout de mon enfance,
Ah,
les gens ils veulent pas entendre ça, sinon ils veulent entendre comment.
on sait pas, on sait pas. Bah, allez donc.
Et donc, du coup, j'entre en école de kiné septembre 2009 et j'arrive à l'école de kiné, du coup, avec 4 000 $ montés de roll ou 3 500, 4 000. Et ça coïncide avec le début du point fer début 2009. Donc, du coup, grosse promotion sur Winamax, début du point fer, vidéo de Ludovic Laquet sur Cash Game. C'est lui qui m'a donné l'envie à l'époque de me lancer dans le Cash Game. Je suis, ah, ça a l'air cool le Cash Game, on peut vraiment plus jouer au poker, etc. Ben voilà, on joue plus de coups, on est plus profond, etc. Donc j'arrive sur le point fer avec 3 000, 3 000 €, 3 500 €, faut convertir dollars, etc. Donc du coup, je suis là, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, Jérôme, quoi? Bon, bah, NL50, machin, etc. Puis je vais vite en NL100 avec 5-6K de roll, mais c'est pareil, j'ai mes études de kiné en même temps, donc je joue un petit peu le week-end. Mais déjà, jouer en NL100 à l'époque, c'était beau pour moi, quoi, tu vois. Et donc, mais du coup, j'étais pas bon, je devais gagner 1 000, 2 000 € par mois, sachant qu'il devait y avoir 700-800 € de rack-back, tu vois. Enfin bref, j'étais un rack-fiche tout juste gagnant. Mais ce qui est énorme, tu vois, quand t'es étudiant
Oui.
kiné, que tu gagnes 1 000, 2 000 balles par mois, quand
Oui,
tous
c'est
tes potes ils attendent les
énormissime.
APL 350 le 5 du mois, etc. Donc voilà, et c'est à ce moment-là que je commence à te rencontrer au table, parce qu'à un moment donné, il y a un reg qui te remercie dans le chat d'Eurosport Poker, je
C'est
suis sûr.
Eurosport Poker, tout à
Parce que moi, j'avais un petit pinos, les gars, à mes tables, hein, un petit pinos et tout, j'avais
fait.
pastillé en reg, etc. Et il y a un reg qui dit, ouais, merci pinos pour kill tilt et tout. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le tilt, et kill tilt et tout. Et du coup, je google le truc, ah, mais attends, il y a un site de vidéo et tout. Et là, j'apprends le poker, parce que oui, à préciser. Donc j'avais les vidéos de Ludo et Claquet que j'avais regardées, mais pour moi c'était la seule pédagogie qui existait sur le point.fr. Donc je tapais poker sur YouTube et je tombais sur High Stakes Poker, etc. Vidéo Top Douane, Antonius, Ivy, etc. Mais bon, ça jouait du poker. Voilà, c'était pas le. Il devait jouer de cette façon-là pour des raisons bien précises, évidemment. Mais c'était pas le poker tout beau
C'était
et
pas le
coquet, etc.
grind du poker online.
Non, voilà, c'était pas la réalité du poker online,
Mmh,
quoi.
bien sûr.
Il jouait beaucoup trop de mains, etc. Enfin, mais bref, c'était des parties, c'était génial à regarder en tant que spectateur, en tant que fiche un peu à l'époque, quoi. Et donc, du coup, je tombe sur tes vidéos et j'apprends plein de trucs. Je fais, oh là là, mais il faut jouer beaucoup moins de mains que ce que je fais et tout. Je me rends compte, moi, je dis, ah, mais je joue beaucoup trop de mains. Et tiens, quand le mec te surrelance, t'es pas obligé de payer pour voir le flop. Ah, mais ça, c'est fou, ça. Et les gars, j'étais en L100, je pensais comme ça. Hein. C'était fou à l'époque et tout. Et donc, du coup, je suis passé d'un 42, 28, 10 à d'un coup un 26, 22, je dirais, tu vois. Et qui fold aux 3 bêtes un peu. Parce qu'à l'époque, je foldais 30% 3 bêtes. Enfin, c'était ridicule. J'étais un fiche, vous pouviez m'isoler, je collais, je 4 bêtais pas et tout. Enfin, c'était nul, quoi.
Mais
Et
tu bluffais
donc.
beaucoup, t'étais chiant à jouer, t'étais très collant, et tu étais t'étais quand même agressif, t'étais chiant à jouer quoi. Y avait pas beaucoup de profils comme toi quoi.
Toi, tu te vas halluciner, toi, tu dis, c'est qui cet
Mais
énervé?
j'arrivais pas à te catégoriser quoi. Au début j'avais mis fiche, après j'avais mis mais non, clairement il comprend le jeu. Et je disais mais alors pourquoi il fold aussi peu aux 3 bêtes? Pourquoi il a autant d'écart entre le VPIP et le PVR? Enfin c'est pas possible qu'il connaisse pas ces notions-là et tout. Puis en fait si quoi, tu vois,
Bah,
c'est
si, sur moi, t'as
trop
changé pas
marrant.
mal. T'sais.
Ouais.
Et donc, du coup, voilà, donc de 2009 à de juin 2012, bah, j'ai vachement du coup progressé, bah, grâce à tes vidéos. Petite pub pour Kill Tilt, Simon, voilà. Et du coup, bah, j'ai joué, bah, j'ai mes études de kiné, mais bon, si on est honnête, la troisième année, c'est l'année où je dois faire mon mémoire. Il te laisse énormément de temps pour faire le mémoire, je m'en fichais, tu vois. Et je l'ai fait en un week-end, une semaine avant de le rendre, et je grindais comme un bâtard pendant 5-6 mois, du coup, à l'époque. Et donc, du coup, on peut dire que mon parcours s'est bien passé par rapport au poker, etc. Mais le poker restait toujours en second plan en ce moment-là, c'est pour ça que je reviens à la responsabilité et responsabilité. Le poker à l'époque c'était cool, ça me faisait gagner 1000-2000 euros. Et toi, quand tu me disais, mais tu sais que Jérôme peut vivre du poker et tout, je fais, mais arrête, Simon.
J'aurais dû garder la capture d'écran, je m'en rappelle, t'étais en super tilt parce que justement je parlais à un reg qui était pro et qui avait 20K de roll et qui était inquiet, je sais pas quoi. Il a dit mais de toute façon n'importe quoi, lol, comment on peut être pro? Et j'avais dit mais comment ça, comment on peut être pro? Déjà je le suis et tu vois bien qu'il y en a plein quoi. Je fais mais non c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Puis genre un an et demi après tu passes pro quoi.
Ah, tu devais rigoler, tu dis qu'est-ce qu'il me raconte
C'était assez
l'autre.
fou.
Donc ouais, poker évolution, puis tu vois, 2010 je jouais à NL100 et début 2020 je jouais toujours les NL100, tu vois, enfin je m'en fous de pas avoir monté les limites, jouer le point com, etc. Enfin, de toute façon pour moi c'est un autre sujet ça, mais
Non mais
pour moi.
enfin, faut nuancer quand même, tu joues les 200 jusqu'à la 1000, mais dès qu'il y a un bon spot, c'est-à-dire que tu dis pas tiens, je vais grinder 40 000 mains de NL 600 et NL 1K seulement, comme font d'autres grinders, toi ça te va très bien de tout jouer entre la 100 et la 1000, quitte à jouer que 5 000 mains de NL 1000 dans l'année, que quand les tables sont belles,
Non,
puis voilà.
j'étais comme ça en 2014-2015, et là, ça fait 4-5 ans que ça m'influençait trop mentalement quand je perdais une cape de 1000 et qu'à côté la table casse et t'as que des
Ouais,
900.
c'est chiant. Ouais.
Donc, ça, j'ai un petit peu arrêté de faire ça. Je dirais que je joue de la 100. Maintenant, j'alterne entre 2, 3, 4 limites. Mais la 1000, ça fait très longtemps que j'ai touché. Maintenant, je joue jusqu'en 400, 500, 600 selon les rooms. Mais bon, enfin, comme on peut le voir sur les winrates par limite, c'est quand même dérisoire, soit mon volume à ces limites-là par rapport à NL100, 200.
Mais comment
Et ça.
t'expliquerais ça? Je suis désolé de t'interrompre, mais j'ai peur de ne pas aborder le sujet vu que c'est une interview plus libre que d'hab et que j'ai pas préparé de questions. Moi, je te connais, enfin, je pense qu'on peut dire que tu connais très bien Julien Martini. C'est un pote, donc pour ceux qui connaissent pas Julien Martini, énorme joueur de cash game et tournoi. Il y a une interview de lui sur Kill Tilt. On peut dire que tu lui as un peu fait des. Enfin, t'as contribué à lui faire découvrir pas découvrir le cash game, mais à le mettre beaucoup au cash game, quoi.
Si, ben, à l'époque c'est marrant parce que Julien s'était rencontré grâce à CSGO, improbable.
Ouais.
Et bah, t'étais dans la
Mais en
game tous les
fait,
deux.
c'est moi qui. Enfin, Julien Martini me rencontre via CSGO. Je lui parle, je fais what the fuck et tout. Et comme on jouait aussi ensemble, on
Bah, à
s'est
l'époque,
rencontrés, je l'ai
il était
rencontré.
pas très connu encore à l'époque.
Pas autant.
Même pas du tout, je crois. Il joue beaucoup des tournois online et tout.
Ouais.
Il me parlait de la variance et ces années qui se suivent, qui se ressemblent pas. Bah ouais, après, je veux pas parler en son nom et tout. Où je dis, bah, tu sais, moi, Julien, Cash Game, c'est sans variant. Je me fais entre 10 et 15K tous les mois, parfois plus. Voilà, les belles années, on faisait même des années, c'était 20K le mois, etc. Et tout. Je dis, attends, mais tous les mois, tout, Cash Game, c'est régulier et tout. Et c'est pour ça lui a mis le goût Cash Game, même si je pense qu'il préfère les MTT, la gloire, etc. Mais le Cash Game, ça apporte une stabilité par rapport au tournoi, je pense.
Ah bah c'est sûr.
Même si les tournois, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui en vivent bien et très bien. Même si j'ai des doutes si sur la longévité et tout, est-ce que vraiment il y a des joueurs de tournois, ça fait 8 ans qu'ils gagnent 150, 200K par an, tu vois, je sais pas
Bah,
si
je
ça
pense pas qu'ils
existe.
gagnent 150, 200K par an. Je pense qu'ils font des années break-even, une année à 400K, une année à 120K, une année break-even, une année à 800K ou 1 million, soit j'en sais
Voilà.
rien, tu vois. Après,
Et
il y a
ça.
énormément de swaps et tout, c'est très compliqué de savoir parce que les plus intelligents lisent leurs variances en swappant toujours avec les 8 mêmes personnes. Enfin, je veux pas trop qu'on s'écarte, mais ma
Oui,
question
non, mais.
initiale, c'était ça te fait pas chier quand justement il y a des grinders monstrueux qui jouent. Julien, maintenant, il joue des parties en 100-200, quoi. Enfin, avec des caves à 20 000 euros, même plus. T'as pas un peu envie de faire comme eux? C'est ça qui est intéressant aussi dans ton profil. On dirait vraiment que tu te connais toi-même et que,
Oui, voilà,
bah
je pense qu'on n'a
voilà, t'es
rien.
complètement en paix avec ton quotidien et tes objectifs. On n'a pas encore parlé d'objectifs, mais c'est un truc qui te tient à cœur. Pourquoi, enfin, est-ce que t'es jaloux ou pas, entre guillemets? Est-ce que t'es envieux et t'aimerais faire ça ou.
Non, non, pas du tout. Je pense qu'on en revient à la personnalité de chacun, en fait, et ses qualités, ses défauts. Moi, je pourrais pas faire ce que fait Julien, et Julien, je pense pas qu'il pourrait faire ce que moi je fais à multitabler autant d'heures, entre guillemets, même si en réalité, je joue 4-5 heures un jour sur deux dans l'année. Ça va, il y a pire comme job, quoi.
Oui.
Mais non, on en revient à la personnalité, les qualités, les défauts de chacun. Moi, je serais incapable de voyager comme Julien. Julien, il adore voyager, jouer partout dans le monde. Parfois, il me disait, il est à Macao, il reçoit un coup de fil. Ouais, il y a un spot à Taïwan, il prend l'avion, il va à Taïwan, en 2 heures, il est à Taïwan. Enfin, moi, c'est une vie que je pourrais pas faire, tu vois,
Ouais,
quoi.
c'est sûr.
Moi, j'ai mon petit confort online, je fais mes 120-140 euros de l'heure, et puis voilà. Mais on en revient à la personnalité, et faut s'écouter, quoi. Faut pas copier-coller ce que fait un autre, et c'est ce que je dis souvent bah, à Octo, dédicace à Octo d'ailleurs, qui peut-être essaye un peu trop de copier-coller ce que moi je fais ou ce qu'un tel fait. Faut se connaître, qu'est-ce que tu kiffes. Faut que le poker ça reste un kiff, quoi. Faut pas te forcer à faire quelque chose. Bon, t'entends, il y a des sessions où je me force, hein, vu que c'est mon boulot, etc. Mais ça reste rare quand. Enfin voilà, faut se connaître et il n'y a pas une bonne façon de grind, c'est ça que je veux dire. Moi je connais pas un grinder qui grind de la même façon. J'ai des potes qui jouent plus haut sur le point fr, 600, 1K, 2K. Ils gagnent pas forcément plus que moi en taux horaire, hein, tu sais. Hein. Donc voilà, c'est. Bon, en 2K, si peut-être quand même ceux qui grindent la 2K à fond. Mais en 600, 1K, tu vois, les très forts win rates, les plus hauts win rates en 1K, c'est 6 BB 100. Moi je suis là, purée, mais dès que j'ai moins de 2 chiffres sur win rate, mais je pars en dépression, je te jure,
Il y a un truc qui
après.
est très important que peut-être les. Excuse-moi encore de te couper.
Ah,
Et
pas de
des gens
soucis.
vont à juste titre dire dans les commentaires que je coupe trop la parole. Et c'est vrai, chacun ses leaks.
Non, mais il
Mais.
faut.
Non, mais moi je coupe trop la parole, c'est comme ça. Je me soigne. Mais peu importe, il y a un truc qui est super important. C'est que quand on a un win rate élevé, alors avec deux chiffres, 10 et plus, on a une variance beaucoup plus faible. Parce que ton niveau de jeu est tellement supérieur au field que tes sessions sont beaucoup plus tranquilles. Et quelle est sûrement la première cause de souffrance et de mal-être au poker? Bah, c'est la variance et les bad runs, quoi, qui impliquent du doute, de la frustration, de la colère, on dort mal, on rumine. Forcément, quand tu as un win rate où tu domines le field, bah, tu perds pas confiance, tu es serein, tu fais beaucoup moins de sessions négatives. Et donc, bah, je vais remettre ton graphe qui est juste là. Regardez le graphe. Bon, alors évidemment, c'est sur 766 000 mains. Ça paraît lisse et tout. Il y a évidemment des périodes de break-even qui peuvent durer très longtemps. Tu as quand même fait des gros downswings de 40K et tout, comme tous les joueurs de cash game. Mais tu en as infiniment moins que la plupart des autres. Et c'est un confort monstrueux. Et peut-être que tu serais beaucoup plus inconfortable, comme tu dis, avec un win rate de 6 BB 100, régulièrement des sessions négatives, des downswings de 25K beaucoup plus fréquents. Et comme tu dis, il faut se connaître. On n'a pas tous le même confort par rapport à la perte, par rapport au risque et tout, quoi.
Ouais, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas une bonne façon de grind, mais faut. Voilà. Bon, après, évidemment, s'il y a vraiment une méthode qui marche plus fortement qu'une autre, ok, mais je pense que ça n'existe pas. Peut-être ça va exister avec l'avènement des solvers, etc. Mais il y a toujours l'aspect mental, toujours qualité, défaut de chaque être humain, quoi. Donc on va pas essayer de copier-coller ce que fait un truc, quoi.
Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui entretient ta motivation alors? Si
C'est
c'est pas de monter de limite, je veux dire.
de maintenir un win rate élevé et toujours de me prouver que je deviens pas un fiche, quoi. Enfin, d'essayer d'être le meilleur de mon field, mais ça c'est impossible à savoir. En cash game, t'as pas les résultats des autres, etc. Mais à force d'entendre qu'entre 4, 5, 6 bébés 100, tu crushes le game, toutes les plateformes de coaching disent ça et tout, moi je suis là, oh, vraiment. Je suis là, mais dès que j'ai 8, 9 bébés, je me dis ça y est, je deviens random, je deviens nul, etc. Tu vois, enfin, je suis vraiment duré quand même. Donc, moi je dirais, mon objectif c'est de conserver un win rate élevé à ces limites-là, un taux horaire fort pour ces limites-là, tu vois. Et
Ton taux
bah
horaire,
d'essayer.
ça fait combien du coup? Je sais plus combien de tables tu joues. Si c'est, tu sais
Bah,
combien tu gagnes de l'heure en moyenne, évidemment, 120
au tab, ouais, c'est entre 120 et 140 euros de l'heure,
Ouais.
ça dépend des années. 2018 c'était exceptionnel, là je suis peut-être plus à 120, je
Et
dirais, faudrait que je
net
regarde.
d'impôts du coup, vu que t'es à Manchester. Enfin, tu es désormais à Manchester après avoir vécu à Londres
Pendant
3-4 ans, je sais pas.
ah non, 6 ans à Londres.
6 ans, 6 ans à Londres. Putain, j'ai
Ah,
vraiment
mais
une notion du temps et je suis vraiment un sale vieux quoi.
le temps
Maintenant,
passe, le temps
ouais,
passe.
depuis que j'ai un enfant qui a maintenant 3 ans, c'est vrai que le temps passe vite. Ouais, non, mais donc effectivement, voilà, moi je voulais faire cette interview pour ça, bah, déjà parce que je t'apprécie beaucoup, notamment parce que tu es quelqu'un avec qui, même si on n'est pas d'accord, on débat et ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et surtout parce qu'il y a beaucoup, vraiment beaucoup de gens qui, enfin, tu vois, qui pensent, comme tu dis, que au poker marketing, paillettes, le tournoi à 2
Ah,
millions,
je déteste ça.
les NL 2000, les NL 5000. Bah, moi, voilà, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je déteste pas ça, mais c'est pas rendre forcément justice au jeu, et surtout, je pense même pas que c'est ce que les gens veulent forcément, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui finissent sur les rotules, en burn-out, enfin, comme on a dit, des vies brisées, parce qu'ils veulent atteindre ça, genre gagner. Tu vois, il y a vraiment des gens. Que j'en ai connu plein, quoi, qui viennent me voir en disant ouais, moi, mon rêve, c'est de gagner un WSOP ou un EPT. Et genre, les mecs sont en NL10, jouent des tournois à Average Buy-in 5 et tout. Tu fais, mais calme-toi, déjà, prends plaisir au jeu. Enfin, je trouve ça fou. Il y a tellement peu de
Oui,
gens qui ont des
c'est bien,
objectifs raisonnables.
d'avoir un rêve, quoi, mais bon, il faut pas que
C'est génial d'avoir un rêve et
faut
tu
pas que ça
peux le
t'obsède,
viser.
quoi.
Mais
Enfin,
pourquoi pas, ça peut t'obséder parce que c'est ça qui va te driver à l'atteindre. Mais il y a plein d'étapes avant, surtout.
voilà, mais
Tu vois,
soyons réalistes,
c'est.
y a un milliard d'étapes avant, ça va prendre des années. Enfin, voilà, moi j'ai commencé le poker 2008, je suis passé pro en juin 2012, tu vois, 4 ans. Après, j'ai pas joué intensément, mais quand même, il faut le temps, tu vois. Enfin. Et il faut que ça reste un plan B, le poker. Moi, c'est ça que j'insiste, quoi. J'ai l'impression que je suis un petit vieux qui fait de la responsabilisation, mais
Non,
bon.
mais t'as raison, et puis c'est un discours qu'on n'entend pas souvent, donc tu peux y aller à fond.
Mais voilà, c'est pas parce que telle plateforme de coaching, je reviens sur ça encore une fois, qui vous vend des trucs. Eux, gardez à l'esprit, c'est leur job de vous vendre, et cher, très cher. Moi, je parle du coaching FR, hein, sur le .com, évidemment, qu'il y a des très bons deals, etc. Mais voilà, moi je me suis jamais fait coacher, la plupart de mes potes ne se sont jamais fait coacher. On peut y arriver par ses propres moyens, gratuitement, il y a
Jérôme.
des travail. Oui, voilà,
Jérôme, désolé,
je
je
sais.
t'en. Non, c'est pas du tout pour ça. Je t'interromps juste pour dire, tu t'es jamais fait coacher, mais t'as eu un entourage de malade quand même. T'as été entouré de très bons joueurs qui fait que même si t'étais pas coaché, c'était encore mieux en fait. Parce que tu passais des heures toutes les semaines à partager ton écran, eux de partager leur écran, vous aviez. C'était presque comme une structure de travail. Enfin, c'est comme si t'as. Bon, non, je vais pas parler de foot, mais c'est comme si t'avais fait. Je sais pas moi,
Ah si, vas-y,
Zida.
parle de
Allez,
foot.
je parle de foot, soyons fous. C'est comme si t'avais Messi et Ronaldo qui, depuis 12 ans, ils jouaient tout le temps ensemble. Bah, forcément, enfin, ça aide à mort, tu vois, quoi.
Cet exemple,
Ouais, c'est un peu
c'est
dur
marrant.
pour moi, tu sais, le foot. Mais honnêtement, moi, je te connais quand même vraiment bien. Bah voilà, t'as pas mis le pied à l'étrier en étant entouré des pires joueurs, quoi. Encore une fois, je vais pas forcément lister, il y en a plein qui sont des joueurs dans l'ombre. Mais voilà, quand t'as démarré, t'avais des joueurs qui étaient déjà pro en haute limite ou qui étaient pas pro, mais qui sont devenus et qui sont des joueurs extraordinaires. Donc t'as eu aussi cette chance. Et je pense qu'il faut le dire, c'est vrai que c'était plus facile à l'époque. Maintenant, de nos jours, si t'as pas du coaching, bah c'est difficile.
Mais
Même
en
si
fait,
y a beaucoup de moi le premier, je pense sur Guildtilt, on donne vraiment du contenu gratuit de qualité, très bien. Mais à un moment, ça va être bien d'avoir en entourage, que ce soit un coach, que ce soit trois autres joueurs qui sont excellents ou qui sont moyens, mais dans une dynamique excellente. Tu vois, justement, c'est un truc dont je parle beaucoup dans ma formation progressée au poker, là, que je suis en train d'écrire. L'entourage, franchement, ça joue, quoi. Et tu peux pas
c'est
dire que
clair.
t'as pas eu ça, quoi. Tu te rappelles les nuits que t'as passées à décortiquer des mains avec des joueurs, tu sais très bien dont je parle, qui gagnent des tonnes aussi, quoi. Ça joue
Oui,
quand même.
évidemment, évidemment. Bah, je pense que j'ai rendu l'appareil depuis. J'aide beaucoup
Bien
de
sûr, bien
joueurs
sûr.
sur Skype,
Bah,
etc.
Yamib,
Mais
comme t'en parlais, c'est un très bon exemple. Il
voilà.
a commencé il y a pas longtemps, tu l'as vachement pris sous ton aile.
Bah, Yamim, c'est un des rares que j'ai coaché. Donc, c'est un mauvais exemple vis-à-vis de mon coaching, tu vois. Je l'ai coaché 10 heures, mais il y a 3-4 ans maintenant. Et maintenant, on est potes. Enfin, il n'y a plus de notion de coach d'élève, tu vois, quoi. Mais voilà. Et je ne coache pas. Hein. Je ne sais pas si on a des demandes sur YouTube, mais je ne coache pas. Voilà. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Mais oui, enfin, tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas foncer vers une offre de coaching payante, etc. Il y a moyen de, bah, déjà grâce à Qltilt, d'aller, je dis ça un peu au pif, hein, jusqu'en L50 grâce à votre contenu pédagogique, des vidéos
J'en
shit
sais
cash game,
rien.
etc. Tu vois, enfin, et en plus, bon, après, vous êtes fait strike sur YouTube, mais vous avez beaucoup de vidéos qui datent. Je sais pas si vous
Non,
avez
on en a
réussi à
encore,
conserver.
heureusement, oui, on en a conservé pas mal, mais. Non, mais même sur Kill Tilt ou ailleurs, il y a quand même plein de contenus gratuits. T'as des streamers incroyables, t'as plein de plateformes qui donnent des contenus gratos. Moi, c'est vrai, bah, forcément, je prêche pour ma paroisse et je suis totalement ouvert aux critiques. C'est vrai que je comprends pas cette volonté de vouloir griller les étapes à tout prix, alors que pour moi, le coaching ou le niveau supérieur vient quand on est prêt pour le niveau supérieur et que. Surtout que le poker est un jeu assez autodidacte où il va être falloir. Enfin, ouais, il faut être capable de tout le temps se remettre en question et entre guillemets, être son propre coach.
Mais
Donc
toi
là,
tu
tout
t'es
seul, vous pouvez déjà vachement vous former, quoi.
toi-même tu t'es fait coach Simon, mais quand tu t'es fait coach
Mais
t'étais déjà
tard,
installé, voilà,
exactement.
t'étais déjà installé en L100, ce que je veux
Mais
dire.
bon, c'était
Tu
une
prends pas
autre
du
époque, mais.
prends pas du coaching, tu vas pas payer 500 balles de coaching si t'es en L4, moi c'est ça que je veux dire quoi.
Ça me dérangerait pas si t'as des thunes. Écoute, moi quand j'ai commencé la guitare, non mais moi quand j'ai commencé la guitare, j'étais un fiche, forcément, je commençais la guitare, je payais des cours 50 euros de l'heure. Imagine un mec qui démarre le poker, il est doué, comme tu dis, il a des économies de sa grand-mère, il a 18 ans et demi, et il veut prendre 10 heures à 50 euros de l'heure. Pourquoi pas? Sa progression va aller plus vite quand même. Pourquoi pas, je comprends aussi, mais c'est peut-être pas le plus judicieux et je pense qu'on va beaucoup y gagner à avoir une part autodidacte et à débroussailler plein de notions aussi, quoi. Parce que le truc, c'est que si on prend un coaching trop tôt, de toute façon, on va rien comprendre. Donc, on va en tirer très très peu parti. Moi, c'est plus ça, quoi.
Oui,
Après,
alors que le coach ne sera pas forcément mauvais, c'est juste qu'il va te dire tellement de choses, toi tu
c'est
vas être largué
ça.
quoi. Enfin,
Il y a tellement de notions de base qu'on peut apprendre tout seul. Après, voilà, tout est possible. Et il y a tellement d'exemples qui contredisent telle ou telle préconisation. On en a vu qui sont fait coacher très tôt, qui ont explosé. D'autres sur le tard, d'autres qui sont autodidactes de A à Z,
mais
etc., quoi.
est-ce que, bon, je vais peut-être aller trop loin, mais est-ce que tu penses pas que c'est un peu la fainéantise des gens de tu te fais coach, tu dis quelqu'un va me porter, va me dire quoi faire, plutôt que d'essayer de chercher par soi-même, de review dans son tracker,
Alors ça, par
etc.
contre, je pense que oui, il y a un gros aspect comme ça qui est encouragé par la société, qui est on veut une solution rapide tout de suite. Et puis voilà, moi, je l'ai vu plein de fois, particulièrement dans le coaching mental, où c'est vraiment souvent des travails profonds. Les gens veulent te parler une heure et que ça aille mieux, quoi. Tu vois, plein de psychologues disent la même chose. Je lis beaucoup de bouquins de développement personnel, de psychologie. Tu as des gens qui sont en dépression, ça va pas dans leur vie depuis 10 ans. Puis ils payent un psy, ils aimeraient qu'en 3 séances, toute leur vie aille mieux, quoi. Alors que ça fait des années qu'ils font des erreurs, qu'ils ont
Réglez-moi
des
mes
défauts.
problèmes.
Ben, c'est un peu ça. Et ça, par contre, je suis d'accord que tu as raison. Il y a aussi cet aspect-là. Enfin, bon, ça en fait beaucoup dans tous les cas. Et je pense qu'il faut savoir faire son tri. Il y avait des émissions dans 4 débats en confinement qui en parlaient. Il y avait eu des choses intéressantes à dire sur le coaching. Mais il y a à boire et à manger. Il faut être méfiant, critique. Et puis surtout, si on sent que ça ne nous aide pas, pas hésiter à prendre une pause et puis revenir plus tard
Est-ce que
dessus,
tu
quoi, tout
penses qu'il n'y a
simplement.
pas... Bon, je vais dans tous les sens, hein. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui n'ont pas d'objectif fixe? Ça me tient à cœur, moi.
Mais je cherchais une transition, elle est toute faite.
Et l'objectif, il y a
Justement.
trois types d'objectifs pour moi. Il y a court terme, moyen terme, long terme. Et c'est très bien d'avoir des objectifs long terme. Comme les exemples, tu disais, ouais, je veux gagner un bracelet WSOP, machin et tout. Oui, mais là, en l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi l'objectif court terme? Bah, je sais pas, tu lances une session. Le but, c'est de mieux jouer au poker. Tu vois, moi, c'est ce que je me dis quand je lance une session. Mon objectif moyen long terme, bah, c'est de faire toujours des années bien, entre 120 et 200K, tu vois. Et après, ça dépend de combien de jours je grind dans les, en gros, quoi. Mais voilà, en fait, et si tu grindes sans objectif, bah, tu vas nulle part. Et faut pas s'étonner, bah, tu vas nulle part, donc tu vas pas réussir, quoi. Donc, objectif de vivre du poker. Si on a un, il me dit à 18 ans, je veux vivre du poker, je fais OK, donc ça, c'est objectif très long terme, quoi, on va dire. Objectif moyen terme, c'est dans un an, je dirais que d'être autonome financièrement, quoi. Même un an, c'est juste quand même un an ou
Ouais,
deux
un an,
ans.
c'est difficile, hein, si tu pars de zéro, quoi.
Ouais, voilà. Et l'objectif court terme, toujours objectif court terme, c'est de penser, quand on lance une session, de jouer du mieux possible et ne plus penser long terme, etc. Ne pas se dire parce que je perds un gros pot, ça y est, ma carrière est finie, etc. J'en sais rien. Et je pense qu'il faut des objectifs, quoi. Mais en fait, comme dans tous les domaines de la vie, tout simplement.
Ouais, exactement. Mais justement, j'allais te poser la question. Est-ce que toi, tu avais l'impression que tu avais des objectifs lorsque tu as démarré le poker un peu sérieusement, juste avant de passer pro, ou est-ce que c'était très flou et qu'ils sont venus après?
Ah bah disons, les objectifs, tu commences à en avoir à partir du moment où tu prends le poker au sérieux. Moi, pendant des années, je le prenais pas au sérieux, donc je jouais, bon, je gagnais quand même 1000-2000 euros par mois, c'est n'importe quoi. Et à partir du moment où tu prends le poker au sérieux, oui, mes objectifs, bon bah voilà, j'ai mon diplôme de kiné, mon objectif c'est de me prouver que là, cet été 2012, il faut que je gagne, que je me prouve à moi-même et à ma famille. Bon, c'était bien passé, hein. J'ai pris, je crois, 30K juste en L100, hein, 2 mois avec rack back, mais je faisais 100 000 mains par mois, hein, je faisais.
Ouais, t'as fait même des mois à 100, 120 000, 130 000, je crois. Il me
Peut-être, bah,
semble.
à
Oui, il me semble à l'époque.
2012-2013, je faisais 1 million de mains par an facile, quoi. Donc voilà, là maintenant je suis plus à bah, 2 fois moins, quoi, tu vois. Mais oui, donc ouais, il faut des objectifs quoi, enfin me prouver à moi-même et à ma famille, etc. Et parce que ça fait peur quand même de se lancer dans le poker, de faire que ça même. Mais bon, j'avais, ça restait le plan B. Il faut toujours que ça reste le plan B, le poker quoi. C'est ça qui me choque moi aujourd'hui. J'ai l'impression que les gens c'est leur plan A. Et si ça marche pas, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi? C'est bon.
Bah, on fait un plan B.
Ouais, mais du coup, t'as un peu niqué ta vie quoi. Enfin, si t'as 20-25 ans, que t'as pas fait d'études, t'as pas de diplôme, t'as pas, c'est parce que t'as fait all-in sur le poker et que ça marche pas.
Bah, tout dépend des situations. Par exemple,
Oui.
imagine ton plan A, c'est de devenir joueur pro de poker et que tu as 2 ans de chômage, tu donnes 2 ans pour monter une roll de 20 000 euros, t'installer en NL100 et avoir 30 000 euros de côté. Et tu dis, voilà, je suis au chômage, donc je sais pas, tu avais 20, 23 ans, 25 ans, tu as 2 ans devant toi, et tu dis, bah, mon plan B, c'est que si en 2 ans je n'ai pas atteint ces objectifs, je reprends un cursus d'études ou je finis ma formation et je réintègre la vie professionnelle et tout, c'est possible aussi, tu vois. Encore une
Je sais
fois,
pas
c'est à
si.
nuancer et
Ouais.
tout est.
À 23 ans, vraiment, t'as le droit à 2 ans de chômage. Faut que t'aies bossé quand même,
Faut que
non?
tu aies bossé, faut que tu aies bossé
Ah, c'est un
beaucoup,
beau pays,
ouais.
la France, hein.
Non, non, j'exagère, j'exagère. Quand tu dis à 23 ans 2 ans de chômage, mais 20, 20, 27 ans, moi j'en ai connu pas mal quand même. Qui à 27 ans se donne même 2 ans, c'est long, hein. Alors, en général, comme tu dis, ici ils ont 27 ans, ils jouent au poker depuis un moment, ils ont une petite roll. Ils disent voilà, là j'essaye un an à fond, et si ça marche pas, je reprends un poste d'ingénieur. Souvent ils font ça dans des années de transition
Mais ça, pourquoi
professionnelle.
pas? Mais tu fais pas ça à 20 ans, tu vois, tu fais pas ça avec rien, juste avec le bac
Bah, c'est
dans
sûr
les
que c'est pas ce
bagages,
que
quoi.
je recommande, hein. Ça c'est certain, hein.
Et enfin voilà, j'avais envie de. Je casse un peu le poker quand même. Mais bon.
T'as peur qu'il y ait trop de bons règles qui viennent aux tables
Bah,
te
c'est d'ailleurs
niquer
une
tes
de
gains.
mes sources de motivation quand je grind. Je dis, ah tiens, je vais aussi éviter que des règles move up, tu vois.
Des règles high trop.
Voilà, quand des règles de 50 ou 100 move up, c'est un peu mon kiff, un peu de leur mettre un stop, tu vois, comme ça, moins il y a de règles, bah, plus j'ai de fiches, moi, tu vois, en proportion, forcément. Donc voilà, c'est un de mes objectifs en session, tu vois. Et voilà.
Bon, je vais te poser des questions un petit peu techniques sur le poker.
Ah, c'est la partie technique, comme dirait Chichi, pardon.
Ouais, non, pas spécialement, mais je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu pensais qui étaient les. Bah, ouais, au jour d'aujourd'hui, les trois compétences techniques vraiment qui ont le plus d'impact au poker, en cash game, et qui vont lever le plus de V, quoi. Qui vont avoir le plus de gains sur le long terme en table. Qu'est-ce qu'il faut absolument maîtriser et que les gens sous-estiment ou pas forcément, mais.
Ok, donc là on parle spécifiquement de moi, ma
Ouais.
variante, mon grind,
Selon
ok.
toi, au cash game, en NL100, 200, quels sont les trucs techniques vraiment cruciaux et qui sont pas maîtrisés, pas assez ou négligés?
Ce qui est négligé, je pense, c'est de pas jouer son A-game le plus souvent possible. En B-game, on est en tilt en fait, hein, c'est toi qui l'avais dit, je crois. Dès que tu passes en B-game, t'es en tilt, donc et jouer son A-game le plus souvent possible, ça j'ai l'impression que plus personne n'en parle trop.
Alors là c'est assez mental. Donc
Ah,
quand je parle vraiment
d'accord.
spécifiquement,
Ah
techniquement.
d'accord, ok, le technique, ok, bah je jouais en position les fiches les plus possibles, éviter les spots hors de position contre les règles. De temps en temps, t'es obligé, c'est le poker, tu vas pas fold As-Dame suit quand t'as un règle de 3 bêtes et que t'es hors de position par exemple, tu vois. Tu vas call ou 4 bêtes, tu t'alternes, tu fais ce que tu veux. Mais vraiment jouer les fiches le plus possible, c'est la base même du poker, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle plus parce que le solver dit faut 3 bêtes, 33% ce spot, faut tier pot, machin et tout, et on parle plus de qui est en face, tu vois, enfin donc voilà. Et donc jouer les fiches une tonne, être cohérent dans son plan de jeu. Quand je dis ça, c'est moi j'ai un plan de jeu, mais vraiment que je considère basique, tu vois. J'ai mes sizing prédéfinis à toutes les streets. J'ai pas 18 sizing par street, tu vois. J'en ai un, mais comme ça, je suis sûr de pas faire de bêtises et de pas faire un sizing value, un sizing bluff. Parce que moi, je repère celui quand même chez beaucoup de règles. Alors peut-être que du coup ils vont changer maintenant que je dis ça. Mais il y en a beaucoup quand même qui tiers en bluff et qui deux tiers en value et qui se trouvent des excuses alors qu'ils sont censés tiers range en. Bah, tier range quoi, tu vois. Donc dans range, il y a 100% des mains. Dans 100% des mains, les gars, il y a nuts. Hein. Donc quand vous avez nuts, ne faites pas deux tiers, ça va se voir. Hein. Bon, vous pouvez le
Non,
faire
bah
contre.
attends, il n'y a pas des règles qui font ça de nos jours, t'exagères un peu, non? Si? Ça
Sans
m'étonne
doute.
quand même. Enfin, je pense que t'exagères dans le sens où oui, ça doit arriver, mais les règles ne sont pas quand même à modifier leur range. Peut-être contre des fiches, mais non. Bon, ok. Il faudra des end
C'est mon
history à l'appui, peut-être.
opinion, hein,
Ouais, ok, bah remarque, c'est vrai. Donc, ok, donc jouer un maximum les fiches parce que c'est là où est la value. Avoir un plan de jeu qui est cohérent et auquel on se tient.
voilà, après avoir un plan de jeu, bon, c'est à peu près quelle carte on va de barrel, quelle carte on va give up, etc. Enfin, ça on le sait, après évidemment dévie, mais avoir un plan de jeu de base pour jamais être perdu dans les spots, évidemment, tu vois. Donc tu sais, tu connais tes ranges d'open, tu connais tes ranges de 3 bêtes, tu connais ce que tu vas défendre, enfin voilà, tu connais tes ranges de base et après tu as le droit de dévier en fonction. Mais attention, si tu dévies trop contre certains règles, ils vont s'en rendre compte, etc. Enfin, moi je vois comment je me rends compte versus certains règles, si ça se trouve, eux se rendent compte de plein de leaks chez moi et vice versa, forcément. Hein. Donc la déviation, attention, faut quand même avoir un plan de jeu de base, quoi, le 4-4-2 à plat au foot, Simon, et ça devient pas n'importe quoi, on joue le hors-jeu derrière, et on se projette vers l'avant après, et puis voilà. Et pas faire n'importe quoi. Et là, je m'étends, tu voulais peut-être parler plus de technique, de pot trop
Non, non,
bête.
c'était ça, mais effectivement, j'aurais bien aimé
D'accord.
un dernier sur un truc
Ok,
technique, peut-être, je sais pas, de moins colle les 3 bêtes, passe les vœux dans les 4 bêtes, j'en sais rien, est-ce qu'il y a un truc qui te vient?
un dernier, c'est très très facile. La base pour crush au point fer, attention, c'est le bet fold quoi. Tu bet, ça reste trop peu en bluff. Par contre, ça colle trop. Donc c'est pas grave si tu as de value cut de temps en temps, mais tu vas. Pour moi, le bet fold, c'est la base du poker gagnant sur le point fr. Voilà. Pas
C'est-à-dire que
trop.
t'estimes que y a trop de gens qui bettent pour value et quand ils se font raise, ils n'arrivent pas à lâcher, quoi.
Voilà. Non. Je pense qu'il y en a qui ont trop peur de se faire raise quand il value, alors que c'est évident que le profil adverse va jamais raise en bluff. Donc même si c'est frustrant de bet fold second nut, eh ben c'est pas grave, faut le faire quoi. Et du coup, vu que c'est désagréable de bet fold, je pense qu'on en revient au mental. Vu que c'est désagréable de bet fold, les gens préfèrent faire des check calls horribles, tu vois. Au moins ils voient le showdown, ils disent ah ok, il
Ah
met
d'accord,
une.
j'avais pas compris. C'est-à-dire que pour toi, il faut s'habituer et être à l'aise avec l'idée de bet fold parce que sinon, il y a trop de gens qui préfèrent check call et qui
Bah,
pour éviter l'inconfort, quoi.
en fait, c'est juste par rapport aux tendances de field sur le point fr. Le field fait quoi? Ne re-raise pas assez en bluff, turn ou
Ouais.
river. Au flop, ça check-raise un peu globalement, ok. Mais turn ou river, ça re-raise pas assez. Donc si ça re-raise pas assez, ça veut dire qu'on peut value-sign pas mal, quoi. Tu vois, on n'a pas peur de se faire raise notre range de value-sign. Donc voilà, ça colle trop. Et ça fold pas assez en face. C'est pour ça que c'est vraiment bien. Ça colle trop et ça re-raise pas assez. Donc en fait, c'est juste par rapport aux tendances du field que moi j'observe, tu vois. Donc tu peux. Valucine beaucoup, t'as jamais peur de te faire rire en bluff concrètement. Bon, maintenant que je dis ça, peut-être que je vais me prendre la
C'est
foudre.
ce que j'allais dire, il y a peut-être plein de règles qui vont te raiser tout le temps. Tu dis, oh là là, il touche beaucoup en ce moment. Les gens vont t'exploiter.
Voilà, mais il y a trop de règles, j'ai l'impression qu'ils ont trop peur de bet fold, mais c'est peut-être un manque de confiance dans son jeu, dans ses reads, etc. Moi, j'ai aucun mal à bet fold deuxième nut contre un énorme nid, tu vois. Enfin, voilà. Il y en a qui ont préféré check call alors que le nid va jamais transformer n'importe quelle main, il va pas valucine, il va pas bluff, enfin, bref, il va bet que nut, quoi. Donc, enfin voilà, pour moi le bet fold c'est la clé du point fr. Voilà.
Ok,
Belle
c'est
conclusion.
compris. Ah ouais. Et bah dans les leaks mentaux, alors, qu'est-ce que. Donc, mental, pour moi, c'est vraiment super, super large. C'est tout ce qui n'est pas la technique. Donc, ça peut être limite, si tu veux me parler de sommeil ou de cooldown, jeux vidéo ou de ce que tu veux, tu peux y aller, quoi. Mais qu'est-ce que mentalement, pardon, les joueurs de poker négligent beaucoup, selon toi?
L'aspect de la variance, tout
C'est-à-dire.
simplement. J'ai l'impression que c'est comme tout, les gens savent que la variance existe, tu leur dis, tu leur répètes dans les vidéos, toi le premier sinon, mais quand ça leur arrive, ils sont toujours surpris, ils disent ah je pensais pas que ça allait m'arriver à moi, tu vois. Ils pensent toujours que ça va arriver aux autres, tu vois, le malheur, le Covid, tout ça, tout le monde pense que ça n'arrive qu'aux autres, quoi. Enfin, non mais parce que les gens ne font pas attention encore aux gestes barrières, etc. Si on parle du Covid, etc.
Et
Et enfin voilà, les gens ont toujours cette sensation de oui, j'ai entendu ça, c'est bien, je vais faire attention, mais ils se préparent pas mentalement à vraiment le
d'accord.
vivre, quoi, le downswing, tu vois ce que je veux dire? Ils pensent toujours que ça va arriver aux autres, j'ai l'impression. Et pas à eux. Donc la gestion du bad run et des downswings, je pense,
Mais
ça
comment,
se
alors
faisait vers.
concrètement, comment tu conseillerais à quelqu'un de prendre plus conscience de ça? Parce que, ben, ok, mais que le mec, tu lui as répété pendant des mois qu'il risque de se prendre un bad run et un long break-even, surtout en tournoi. Il dit, ouais, bon, voilà. Le moment où ça lui arrive, il est super impacté psychologiquement, alors qu'en fait, c'est standard et on l'avait prévenu. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment se prémunir de ça avant de l'avoir
Quelles sont
vécu?
vos
Et si
solutions
oui,
quoi, ouais.
comment on fait, quoi?
Bah, après chacun son truc. Moi je sais que à chaque fois que je lance une session, je fais bon là Jérôme, je me dis n'importe quoi, je fais t'as beaucoup run good dernièrement, ça se trouve tu vas prendre la foudre ce soir, tu vois, je me dis des petits
Tu te
trucs comme ça
prépares,
avant
tu
la
te
session, voilà.
reconditionnes.
Et quand ça arrive en session, je me dis bon bah voilà, là la variance te teste Jérôme, on va voir si t'es une tarlouse mentale ou si tu vas garder ton gars. Mais tu sais, je me parle à voix haute comme ça, hein, devant mon ordinateur, dans ma table, dans mon salon et tout. Je dis là voilà, on est à moins 1K, moins 2K, ce qui pour mes limites est beaucoup, tu vois quoi. Et je dis bon bah voilà, la variance te teste. Et c'est là que je me dis, et c'est là que tu fais la différence, tu vois. Et là, il y a plein de règles qui vont dévier une tonne. Bon bah tant pis, ce sera une journée de merde, mais tu vas garder ton jeu, tu vois. Mais je me parle de plus en plus à moi-même. Peut-être je deviens fou, hein, tu vois, je sais rien. Mais je pense, moi c'est ce qui m'aide en tout cas de me parler à moi-même. Je dirais pas que je médite, mais genre 5 minutes avant de lancer une session, je me mets en position de tailleur, de méditation sur le canapé et tout, et je me répète plein de phrases dans ma session. Je dis, rappelle-toi, Jérôme, tout le monde est nul, faut pas overthink, faut faire ci, faut faire ça, faut bet fold. Si le spot arrive 5 fois de suite, que c'est pénible, bah il va arriver 5 fois de suite, c'est comme ça, c'est la variance. Bon, si tu commences à vraiment avoir des doutes, tu notes les mains, tu verras plus tard dans le tracker, tu partages la main avec des potes, etc. Mais te level pas, etc. Oublie pas le niveau faible du point fr, etc. Enfin, je me dis plein de phrases comme ça pré-session, et dans la session, je me dis d'autres phrases pour me motiver. Après, Voilà, ch chacun a ses trucs, mais faut juste, faut pas être étonné le moment où ça arrive, quoi. C'est juste ça que je veux dire. Faut être prêt, chacun peut avoir ses techniques. Voilà, moi c'est les miennes, bon.
Mais ce que tu fais en fait, c'est ni plus ni moins qu'une forme de visualisation et de mantra où tu te répètes et tu te mets en condition pour être prêt à ce qui va arriver potentiellement, sachant qu'au poker, on sait que potentiellement des situations comme ça vont souvent arriver. Du coup, le moment où elle arrive, tu es en quelque sorte prêt et au lieu de râler, te plaindre, dire que ça ne devrait pas arriver, tu es prêt à dire ok, ben, comme un navigateur, je prends souvent cette métaphore, qui est en bateau, il dit ok, ben, là c'est la tempête, juste il faut que je navigue au mieux, c'était prévu potentiellement et voilà. Et tu sais qu'en tant que joueur de poker, tu vas traverser des périodes de bad run et que ton métier, et tu as dit un truc qui est fondamental pour moi, qu'avait dit Alexandre Luneau aussi d'ailleurs, qui est qu'en fait le métier de joueur de poker, c'est de réussir à continuer de bien jouer dans de bonnes conditions avec un bon état d'esprit quand ça se passe mal. Parce que quand ça se passe bien, c'est facile en
Ça,
fait, mais...
c'est très dur, même moi j'ai encore beaucoup de difficultés quand t'es à moins 2K, que tu dois faire un énorme bluff, etc. Tu le fais un peu moins, tu vois, quoi, parce que
Là, t'es influencé.
T'en as marre, tu vois, mais c'est parce que t'es un être humain, mais il faut lutter contre ça, mais c'est dur, hein. C'est pour ça, moi, le seul moyen, c'est de parler à voix haute quand le spot arrive, et comme ça, le fait de m'avoir dit ça 10 secondes avant, je vois, Jérôme, tu l'as dit 10 secondes avant, maintenant t'as su, hein.
Ouais.
Donc voilà.
Ok, donc premier leak mental, donc les gens qui sont pas assez préparés à la variance et on a beau les prévenir quand ça arrive, en fait ils se sont pas vraiment préparés mentalement, psychologiquement et à vivre ça. Qu'est-ce que tu vois d'autre éventuellement?
Alors ça va être marrant sortant de ma bouche, mais l'hygiène de vie, tu vois, parce que pendant des années,
Bah tu t'es amélioré, tu t'es amélioré.
voilà, parce que pendant des années, je disais, mais arrête, on s'en fiche de l'hygiène de vie, je lance du poker, puis c'est tout, tu vois. Mais bon, je pense que j'étais jeune, insouciant, etc. Et là maintenant, avec l'âge, enfin, avec l'âge, bon, ça va, j'ai
Non mais
30 ans.
j'allais dire, je me marre, toi tu me vois pas, mais je me marre parce que on dirait que tu parles, t'as 45 ans et tout.
Non, mais je vois la différence que quand j'ai grind à 23 ans ou 31 ans, tu vois, à 23 ans, je pouvais enchaîner 8-9 heures, le lever le matin à 16h, à 16h05 je suis au table, c'est parti, tu vois. Et là maintenant, c'est plus du tout pareil. Maintenant, déjà, si je fais pas du sport 3-4 fois par semaine, je suis en tilt, voilà. J'ai mes repas prévus globalement à une heure près tout le temps en même journée, alors qu'avant c'était n'importe quoi. Hein. Donc voilà, je dirais il y a l'alimentation et le sport. Le sommeil, j'ai jamais eu trop de problèmes, j'ai toujours bien dormi dans ma vie. Et du coup, quand je lance ma session, faut que je sois bien, quoi, tu vois. Alors qu'à l'époque, je me posais même pas la question, tu vois. Je lançais, je me login, je vois les tables, je fais, oh, elles ont l'air faciles, et puis c'est parti, quoi. Et là, maintenant, je me dis, non, non, tu te logines pas avant que t'aies pas fait ton sport, que t'aies bien mangé, que t'aies digéré, tu vois. Enfin, plein de trucs que je me posais même pas la question avant, tu vois. Mais
Ok, donc ça fait deux et un troisième. Est-ce qu'il y a un troisième leak mental qui te vient en tête que tu vois fréquemment?
j'ai dit quoi? Donc, la variance, l'hygiène de vie. Pourquoi il faut que ce soit 3, quoi? Je
Je
sais
sais
pas.
pas, c'est plus sympa.
Attends, je réfléchis. Bah, est-ce qu'on. Ouais, de pas dévier du high game en session. Bon, là, je sais pas si on.
Rester. Ouais, non, mais si, c'est difficile, mais donc être constant et régulier dans sa performance, travailler ça quoi, tout
Ouais,
simplement.
et. En fait, partir du principe qu'à partir du moment où on passe en big game, on est en tilt. Et moi, je me rappelle, ça m'avait choqué quand tu avais dit ça à l'époque, parce
C'est
qu'on.
Tommy Angelo hein, qui disait ça, effectivement, ça m'avait beaucoup marqué aussi,
Et
je l'avais
prends crédit
répété.
si mon
Bah
ticket
non, c'est pas juste, il faut
est
rendre à César ce qui lui appartient, si ça venait de moi, je serais fier, mais c'est pas le cas. Mais effectivement, ça m'avait beaucoup
Parce
marqué
que
aussi.
moi, en fait, bah, je fais session de 4 heures et souvent vers 2h30, 3 heures, je commence un peu fatigué. Et je le vois, je fais bon, là, Jérôme, là, ça fait quand même quelques minutes, tu joues en automatique, tu vois, je le vois. Et même vous, parfois, dans les sessions, la tête ailleurs, automatique, t'as plus le Hive Tiger dans le spot, quoi. Et oui, je me lâche un peu. Tu sens que ça y est, je suis plus en A game de
Ouais,
l'interview.
exactement, tu commences à...
Par rapport aux 10 premières minutes où j'étais sérieux et tout. Et donc, ouais, dès que t'es plus en A game, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Mais je sais pas, un troisième leak mental, parce que c'est pas vraiment du mental, c'est plus de la
Bah si,
technique.
c'est dévier du high game beaucoup trop facilement et pas y prêter attention. C'est un vrai leak mental. Si, de jouer trop en autopilote, en rythme de croisière, alors que c'est une compétition, chaque décision compte, chaque blinde que tu prends ou que tu laisses, elle va compter. Et donc vraiment être à 200% autant que tu peux dans chaque spot et pas se laisser couler douce parce que le poker te stimule pas comme un sport autant tu peux rester devant ton écran à vachir et laisser passer 100 mains
Un
sans
par
t'en
pas.
rendre compte en
Et
fait.
parfois, c'est ça qui est incroyable, le poker. Parfois, t'as des sessions folles, tout le monde est aggro, fait n'importe quoi. Et t'as des sessions, il se passe rien. Et là, et c'est là, tu peux t'endormir un peu en BGM, etc. Mais ça, c'est incroyable, quoi. Donc, je dirais, pour résumer, du coup, l'hygiène de vie, quand tu lances ta session, être bien, quoi. Avoir fait, te sentir bien dans ton corps. Et ensuite, les deux autres, c'est in-game, c'est le mental et la technique, tu vois. Enfin, donc, la technique, c'est maintenir son in-game le possible, je dirais. Et le mental, c'est que quand ça se passe mal, essayer de continuer quand même, quoi. Mais. Je sais pas si c'est
Bah
bien
voilà, c'est
résumé,
bien. Ouais, c'est très bien. Une petite dernière question, enfin deux, mais donc l'avant-dernière question. Comment tu te vois dans 10 ans?
Ah, ça c'est une bonne question parce que c'est super dur de se projeter
Bah ouais.
avec le cœur.
Ou comme, bon, alors comment tu aimerais te voir dans 10 ans? En tout cas.
Dans 10 ans, j'aimerais bien me voir en mode, je joue plus au poker professionnellement, mais j'y joue
Ok.
encore un peu de temps en temps. Mais ça, et en même temps, quand je me dis ça, je me dis, ah, je sais pas si tu arriveras à jouer, parce que si je joue de temps en temps. Tu seras nul et tu vas détester être nul,
Moi,
tu
c'est ce qui m'a fait arrêter, c'est ce qui m'a fait
vois.
arrêter, ouais, c'est clair. C'est dur hein, quand t'as joué à haut niveau, que t'étais exigeant avec toi-même. Quand tu joues de temps en temps, tu perds ton niveau, c'est frustrant, c'est dur.
En même temps, ça reste ta passion, donc t'as envie de jouer, mais quand tu joues, tu te sens nul, tu sais, c'est horrible, quoi.
Ouais.
Enfin, moi, je vois bien au bout du. Même j'arrête le poker pendant une semaine, je reprends la première heure, je sens que j'ai plus d'automatisme, etc. Hein, donc, je dirais que je joue quand même au poker parce que ça reste ma passion dans 10 ans. Et faire ce que je veux quand je veux, quoi. C'est ce qu'offre le poker, quoi. Donc, je sais pas ce que je voudrais dans 10 ans, tu vois, mais sans problème de riche, j'ai envie de dire. Hein. Donc, bon.
Ok, donc jouir de la liberté et des projets
Voilà.
potentiels qui viendront, très bien.
Passe par la liberté financière qu'apporte le poker. Parce qu'on joue au poker pour gagner de l'argent, on va pas se mentir. Certes, c'est une passion, etc. À la base, ça va être une passion. Et après, la passion nous fait gagner de l'argent. Faut pas jouer au poker si t'es pas passionné. Pour moi, c'est la base du truc. Mais du coup. Ah merde, je me suis perdu dans mes fils de pensée. Il se passe des choses là-dedans. Et du coup, je voulais dire quoi? Et oui, et du coup, si tu grilles les étapes, que tu mets pas de côté, etc., tu pourras jamais jouir de cette liberté du poker, quoi. Enfin, pour moi, le poker, t'as pas la retraite à 60 ans, donc faut vraiment mettre de côté une tonne maintenant, là maintenant, pour être tranquille plus tard, quoi. Donc, voilà.
Ok, et bah, donc du coup, dernière question, un petit conseil pour les jeunes joueurs, typiquement ceux dont on parlait en début d'interview, qui ont 18 ans, qui peuvent pas s'empêcher de rêver à être joueurs professionnels et qui sont sérieux, qui ont quand même la tête sur les épaules, et que ce soit leur plan A, leur plan B, peu importe, qui ont vraiment ça dans un coin de leur tête, bah, tu en as un peu parlé, mais qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, quoi?
On a toute la vie pour réussir dans le poker, on a vraiment toute la vie. De pas griller les apps, de prendre le temps, de pas griller les apps, de prendre le temps.
Prends le temps de
D'éternel.
quoi alors? Quelle étape commence à être intéressante?
On va prendre un exemple, peut-être plus simple. Le mec a un L10 avec 500 euros de bankroll, enfin, c'est possible en étudiant, quelque chose comme ça. De ne pas se dire dans un an je vais être en L100, l'objectif est beaucoup trop dur. Se dire dans un an, c'est bien si je suis en L20, si je suis gagnant, etc. Bon, je pourrais toujours pas en vivre, mais d'ici 2, 3, 4 ans peut-être. Ne pas être pressé, quoi, prendre le temps et ne pas griller les étapes et ne pas se laisser avoir quand tu regardes Twitch ou des vidéos, de se dire regardez en 6 mois un tel a réussi et tout. Oui, prennent-lui en exemple, mais à côté, il y en a 99 qui ont foiré, qui sont dans la merde maintenant, tu vois. Donc, prendre le temps, faire les choses bien, quoi. Prendre le temps. Tous mes potes qui vivent du poker, ils ont pris le temps. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Et le fait d'être pro vient naturellement. Mais juste, tu joues, tu prends le temps. Si t'as pas trop de temps dans la semaine à jouer au poker parce que ta vie est déjà pleine et remplie, tant pis, ça prendra le temps que ça prendra, mais prendre le temps, quoi, tu vois. Voilà.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter tous ces conseils. En attendant, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Kilty. Il y a le bouton juste ici en haut à droite pour progresser au poker et télécharger bien évidemment notre formation gratuite, Les bases du poker pour aller plus vite. Ciao tout le monde!